around. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du jeudi 10 décembre 2015. Au sommaire ce soir...
Ladislas Ntaganzwa, l'un des 9 accusés encore recherchés par le tribunal pénal international pour le Rwanda, a été arrêté en RDC.
Projet de réforme de l'armée au Burkina Faso, la société civile souhaite l'implication de tous les secteurs.
La question de l'armée est une question qui concerne l'ensemble du pays. Toutes les composantes ont leur mot à dire quand il s'agit de réfléchir sur la réforme de l'armée.
Hervé Kam, porte-parole du Ballet citoyen à Ouagadougou.
Retour ce soir sur la célébration de la journée contre la corruption au Bénin.
Le gouvernement n'a rien fait et ils nous disent... Tapez ceux qui ont détourné et vous allez donner l'exemple parce que nous sommes des petits.
Reportage à suivre de notre correspondante à Cotonou.
Des organisations tunisiennes reçoivent le prix Nobel de la paix, mais l'insécurité demeure préoccupante dans ce pays, berceau du printemps arabe.
À Riyad, l'opposition syrienne s'entend pour discuter avec le régime de Damas.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
Bangui, capitale de la République centrafricaine, de nouveau secouée ce jeudi par des tirs à l'arme lourde et légère. À l'origine, le démantèlement des barricades érigées sur certaines avenues des 4e et 5e arrondissements par des forces de la MINUSCA. Le point avec Freeman Sipila.
Jusqu'en fin d'après-midi, aucune précision exacte n'a été fournie sur l'origine de ces barricades. Il était 8 heures temps universel lorsque des manifestants surexcités ont pris d'assaut une partie des avenues de l'Indépendance, Koudoukou et Martyr, érigeant des barricades. Pour les disperser, la MINUSCA a dû faire recours à la force. Bilan, 3 personnes blessées, comme l'explique Emmanuel Fio Bengay, un des témoins de l'événement.
Précisément, on ne sait par rapport à quoi que ces enfants ont eu à mettre ces barricades. Peu après, il y a eu des interventions, il y a eu 3 personnes blessées de part des forces étrangères. Leurs chefs d'état-major sont venus. Ils ont eu à emporter ces enfants, les soigner, tout et tout.
Peu après la levée des barricades, l'archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Zapalainga, s'est rendu dans les zones sous tension et a lancé un appel à l'apaisement. Jusqu'en début de soirée, toutes les barricades ont été démantelées et la circulation a aussi repris sur les avenues bloquées. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Crise burundaise, des premiers affrontements signalés dans la province de Rumonge. Au moins 2 insurgés ont été tués et 11 capturés depuis mardi dans cette région du sud-ouest du pays. D'après son gouverneur, un groupe de 80 à 100 combattants sont entrés mardi soir dans la commune de Burambi. Les forces de l'ordre sont allées à leur rencontre et des affrontements ont éclaté.
La République démocratique du Congo a mis la main sur l'un des présumés génocidaires rwandais de 1994. Inculpé et longtemps recherché par le tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR. Ladislas Ntaganzwa, chef de la milice Hutu active dans l'est de la RDC, a été arrêté aujourd'hui au Nord Kivu dans une offensive de l'armée congolaise contre les FDLR. Eric Manirakiza.
Ladislas Ntaganzwa figurait parmi 9 génocidaires présumés activement recherchés par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Depuis des années, l'ancien maire de la localité de Nyakizu, au sud du Rwanda, devenu chef de la milice Hutu des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, faisait la pluie et le beau temps dans l'est de la RDC. Le TPIR a engagé des poursuites contre Ntaganzwa pour entente en vue de commettre le génocide. Génocide, complicité de génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide et crime contre l'humanité. Par ailleurs, une enveloppe de 5 millions de dollars avait aussi été mise en jeu pour avoir sa tête. De son côté, Kinshasa l'accuse de nombreux crimes contre des civils et veut d'abord l'entendre avant son éventuelle extradition au Rwanda, qui, après la fermeture du TPIR à Arusha, a hérité 4 affaires, dont celle de Ladislas Ntaganzwa.
Au Rwanda, la commission électorale assure que tout sera prêt pour le référendum du 18 décembre. Nous avons assez de fonds, nous avons déjà enregistré les électeurs, affirme le président de cet organe. Rappelons que le vote vise à entériner une révision de la constitution qui permettra au président Paul Kagame de se représenter en 2017. Potentiellement, il pourrait diriger le pays jusqu'en 2034.
Et nous restons dans la région. Concernant la RDC, Human Rights Watch appelle les autorités à libérer tous les prisonniers politiques. Il s'agit pour l'organisation américaine de défense des droits de l'homme de pacifier les esprits en vue du dialogue national voulu par le pouvoir. Human Rights Watch publie la liste des noms de 21 personnes arrêtées au cours des 12 derniers mois après avoir dénoncé les tentatives visant à proroger le mandat du président Kabila ou avoir participé à des manifestations pacifiques ou d'autres activités politiques. Et toujours en détention.
Le quartet pour le dialogue national tunisien reçut le Nobel de la paix à Oslo, un prix sur fond de troubles et de guerre, d'après Cassie Kullmann-Five, présidente du comité Nobel norvégien. Idriss Fall.
L'organisation patronale Utica, l'Ordre national des avocats, la Ligue tunisienne des droits de l'homme et l'Union générale des travailleurs de Tunisie, UGTT, sont crédités d'avoir sauvé la transition dans leur pays en organisant un long et difficile dialogue national entre le parti islamiste Ennahda et ses opposants. Selon le comité du Nobel, grâce à des compromis entre des formations diamétralement opposées, le pays a une nouvelle constitution, a organisé des élections libres, alors que la Libye voisine, la Syrie, le Yémen et l'Égypte sombraient dans la guerre, le chaos ou la répression. Mais le processus reste fragile face à la menace djihadiste. Pendant la cérémonie d'Oslo, Hossein Abbasi, leader de l'UGTT, a donc appelé à faire de la lutte contre le terrorisme une priorité absolue. Il a dénoncé les actes barbares et haineux perpétrés en Tunisie et à travers le monde, de Paris à Beyrouth et de Sharm el-Cheikh à Bamako.
Une réunion sur la crise libyenne s'est ouverte aujourd'hui à Tunis. Sous l'égide de l'ONU, les représentants des deux parlements rivaux libyens tentent de faire avancer un projet contesté de gouvernement d'union nationale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les principaux groupes de l'opposition syrienne réunis à Riyad ont annoncé ce jeudi leur accord pour des négociations avec le régime de Bachar al-Assad. Timothée Donangmaï.
Malgré cette ouverture, l'opposition syrienne exige le départ du président syrien avant le début d'une éventuelle période de transition. La conférence de Riyad, qui a rassemblé une centaine de représentants de l'opposition politique et armée syrienne, visait à unifier les rangs de cette opposition en vue d'éventuels pourparlers pour mettre fin à un conflit qui a fait, depuis mars 2011, plus de 250 000 morts et poussé à l'exode des millions de personnes, rappelle l'AFP. Auparavant, le secrétaire d'État américain John Kerry a estimé très constructive la rencontre des groupes rebelles syriens, mais il croit prématuré de fixer un nouveau rang de négociations de paix. M. Kerry s'exprimait ce jeudi en marge de la conférence de l'ONU sur le climat près de Paris. « Nous faisons des plans pour une éventuelle conférence à New York, mais il faut attendre les résultats de Riyad », avait-il ajouté. Pour sa part, l'Iran, un allié de Damas, a dénoncé la conférence, affirmant que des groupes terroristes liés à l'organisation État islamique y étaient présents.
J-1 au Bourget pour la fin de la conférence sur le réchauffement climatique. Un accord final devrait aboutir, mais pour le moment, les négociateurs cherchent encore un compromis. Pour les détails, Nicolas Pinault.
Il y a encore des difficultés, a prévenu ce matin le président François Hollande, alors que les ministres et les représentants des 195 pays réunis ont passé une bonne partie de la nuit dans des réunions à huis clos. Le projet d'accord devrait être dévoilé ce jeudi soir. Il devrait comprendre les répartitions des efforts entre pays développés et en développement et les modes de financement. Les ministres et délégués ont désormais peu de temps pour réduire le clivage entre pays du Sud et du Nord s'ils veulent sceller ce vendredi un pacte pour empêcher des désastres climatiques de plus en plus fréquents. 6 ans après l'échec de Copenhague, cet accord doit donner un coup d'accélérateur à la lutte contre le réchauffement en permettant de contenir la hausse du thermomètre mondial à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Un accord durable ne peut pas être élaboré en diluant les responsabilités historiques et en mettant les pollueurs et les victimes sur le même plan, a lancé Prakash Javadekar, le ministre de l'Environnement de l'Inde. Concernant les financements, les pays en développement tiennent à ce que les 100 milliards de dollars annuels promis par les pays développés à partir de 2020 soient une somme planchée qui soit régulièrement revue à la hausse.
L'enquête sur les attentats de Paris s'est tournée vers Genève aujourd'hui. La police suisse a relevé le niveau d'alerte et cherchait des suspects dont l'identité et le nombre n'ont pas été précisés. La sécurité a été renforcée au Palais des Nations, au QG européen de l'ONU et dans certaines rues. Souvenez-vous, les attentats du 13 novembre à Paris, revendiqués par le groupe État islamique, ont fait 130 morts et plus de 350 blessés.
Un nouveau président a prêté serment en Argentine, marquant le début d'une ère nouvelle après 12 ans de gouvernement de gauche avec Néstor Kirchner et sa femme Cristina. L'homme d'affaires conservateur Mauricio Macri a promis d'en finir avec le contrôle des capitaux et les restrictions sur le commerce dans la troisième économie d'Amérique latine. Cristina Fernandez n'a pas assisté à la cérémonie de passation de pouvoir.
Donald Trump n'ira pas en Israël le 28 décembre. Le candidat républicain a reporté sa rencontre avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, disant qu'il le fera après son accession éventuelle à la présidence. Les parlementaires israéliens, de gauche comme de droite, ont sévèrement critiqué la proposition de Donald Trump d'interdire les musulmans d'entrer aux États-Unis. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Au Cameroun, la petite entreprise de Ludovic Minoué, 43 ans, ne connaît pas la crise. Biotropical, la PME spécialisée dans l'agro-industrie fruitière qu'il a créée, installée à Bonaberry, dans un quartier de Douala, vient en effet d'acquérir un nouveau séchoir. Coût de l'investissement, 31 000 euros. Un achat qui permettra de doubler la production de l'usine et atteindre un chiffre d'affaires de près de 340 millions de francs CFA cette année. Au Burkina Faso, les travaux de construction de la station de pompage Ziga 2 viennent de commencer pour doubler les capacités de traitement de la Compagnie nationale des eaux. L'objectif visé est de 7 500 mètres cubes par heure pour un coût de 104 milliards de francs CFA. Les travaux devraient durer 2 ans. À Ouagadougou, le déficit journalier s'élève à 25 000 mètres cubes d'eau. L'ONEA espère couvrir au moins 4,5 millions de consommateurs d'ici 2030. En Afrique du Sud, le ministre des Finances, Nlanla Nene, a été limogé, une décision qui a provoqué la surprise dans un contexte économique particulièrement tendu et à 2 mois seulement de l'annonce du budget 2016-2017. Si aucune justification n'a été avancée, l'opposition juge que le ministre paye pour les critiques qu'il avait formulées à l'encontre du président. Et enfin, Canal+ vient d'annoncer la naissance d'un service de vidéo sur téléphone mobile sous Android pour les Africains francophones, en partenariat avec Iroko, spécialisé dans les contenus africains en ligne, surnommé le Netflix africain. Iroko, fondé par le millionnaire nigérian Jason Njoku, se présente comme le premier opérateur de télévision par Internet en Afrique. Sa plateforme, Iroko TV, revendiquait en 2014 1 million de visiteurs uniques par mois. Le prix du service n'est pas précisé, mais Canal+ promet un tarif accessible.
La Minute Éco, merci Anastasie.
Les sports avec Eric et Manirakiza, on va parler handball d'abord, le mondial féminin au Danemark.
La Tunisie, championne d'Afrique, a perdu son 4e match face au Monténégro, c'était aujourd'hui. Et demain, elle jouera contre la Serbie. La RDC, l'autre représentant africain dans cette compétition, a déjà perdu 5 matchs. Une tâche difficile attend devant la France au vendredi. Et enfin, l'Angola, qui a déjà gagné un match, conserve sa chance de jouer les 8e de finale si elle bat la Chine pour le dernier match de la phase de groupe.
Parlons football, Eric. Encore une disqualification dans la course à la présidence de la FIFA.
Tout à fait, Gabi. La candidature du président de la Fédération libérienne a été rejetée ce mercredi, mais Moussa Bilitti a saisi le tribunal arbitral du sport TASS en appel. Il veut que son intégrité soit établie. La même juridiction rendra publique demain à 9h temps universel, Gabi, sa décision sur le sort de Michel Platini, suspendu provisoirement de toute activité liée au foot jusqu'au 5 janvier. C'est pile ou face, Gabi, la levée ou non de la sanction qui a gelé la candidature de l'homme favori à la tête de l'institution du sport le plus populaire dans le monde. Il a déjà gagné 3 ballons d'or.
Et il n'est que d'attendre. Et la vedette du Real Madrid, Karim Benzema, écarté de l'équipe de France.
Ouais, Karim Benzema a été puni par le comité exécutif de la Fédération française de football dans l'affaire du chantage à la sex tape exercée sur son équipier, son coéquipier Mathieu Valbuena. L'attaquant des Bleus risque de rater l'Euro 2016 si son dossier judiciaire n'évolue pas et l'Euro se joue à domicile. Un spectacle qui risque de rater.
NBA, NBA, quels sont les résultats de la nuit dernière?
Charlotte a facilement battu Miami 99-81, tandis que Toronto a mis un terme à la série victorieuse de San Antonio 97-94. Chicago a enchaîné une troisième défaite d'affilée en s'inclinant 105-100 à Boston, malgré 36 points de Jimmy Butler pour les Bulls.
Merci Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriac et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Gabi, le Cameroun.
Les États-Unis ont offert à ce pays de l'équipement de guerre tactique dans sa lutte contre Boko Haram. Cet équipement a été réceptionné mercredi soir au Cameroun, 2 mois après que Washington eut déployé des soldats dans le pays pour aider à combattre le groupe islamiste nigérian. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka, présenté par Lionel Gaïma.
L'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Michael Hosa, a déclaré que cet équipement, des véhicules de combat de haute technologie et des générateurs de grande puissance, est un don du peuple américain pour l'aider à écraser ce groupe terroriste. Ils fournissent eau, électricité, manœuvrabilité, etc. Ils font suite à la livraison des véhicules blindés utilisés en fait dans les combats contre l'ennemi. Mais ce n'est que l'équipement. Le vrai combat est livré par les courageuses forces militaires du Cameroun. Nous sommes fiers de notre partenariat avec elles. Nous fournirons non seulement de l'équipement, mais nous continuerons de fournir informations, renseignements, surveillance, reconnaissance et nous fournirons de l'entraînement si nécessaire à la demande du gouvernement du Cameroun. En octobre, 300 militaires américains sont arrivés à Garoua, dans le nord du pays, pour aider à combattre Boko Haram. Les extrémistes nigérians franchissent depuis 2013 la frontière avec le Nigeria et ont tué des centaines de personnes au Cameroun, outre les 10 000 morts qu'ils ont fait chez eux depuis 2009. Le ministre camerounais de la Défense, Betty Assomo, a déclaré que l'assistance américaine montre que le Cameroun a des amis dans son combat contre le groupe terroriste.
Je voudrais le prier de bien vouloir transmettre au gouvernement des États-Unis d'Amérique la profonde gratitude ainsi que toute la reconnaissance du Cameroun pour cette série d'actes et actions en notre faveur dans ce combat qui, aujourd'hui, revêt de plus en plus une dimension quasi planétaire. Ce don s'inscrit dans le cadre de l'appui à la lutte contre le terrorisme et notamment contre la secte djihado-terroriste Boko Haram, lutte pour laquelle le gouvernement américain est à nos côtés. Et ce soutien s'est traduit jusqu'ici par une multitude d'actions, dont l'une des plus récentes est l'installation à Garoua d'un détachement des forces de sécurité américaines.
En début de semaine, le Cameroun a annoncé avoir libéré 900 otages de Boko Haram et remercié la force américaine de Garoua pour son aide dans le domaine du renseignement. L'année dernière, les États-Unis ont déclaré Boko Haram organisation terroriste et mis à prix 7 millions de dollars la tête de son leader, Aboubakar Shekau.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Et nous partons maintenant au Tchad où les conditions de vie des retournés et fuyant les violences en RCA demeurent toujours précaires. C'est notamment le cas à Sido dans la région du Moyen Chari. Il faut dire que sur place, les efforts des humanitaires sont minés par le manque de financement, ce qui a provoqué le départ de certains acteurs. Le reportage d'André Kodmajingar.
Ici, il n'y a pas de bonne situation. Nous vivons seulement comme ça par la grâce de Dieu. Nous sommes des réfugiés, nous n'avons pas de complications.
Mariam Issa, une jeune mère centrafricaine de moins de 20 ans, fuyant les violences de Bangui en fin décembre 2013 avec son mari tchadien. Elle et son mari sont accueillis sur le site de Sido Ouest, précisément à Amchalabou, depuis 2 ans environ. Avec un bébé de 3 mois sur les bras devant sa hutte, sourire aux anges, Dame Mariam Issa explique comment elle a accouché cet enfant.
Nous n'allons pas normalement à l'hôpital, mais nous allons affronter par la grâce de Dieu. Le centre de santé pour les réfugiés, il n'y en a pas ici. J'étais allée à Maingama. Là-bas, là, il n'y a pas d'appareil d'examen, mais c'est seulement pour nous consulter, tu as combien d'âge et nous peser, tout simplement comme ça. Il y a des châteaux ici, mais il n'y a pas d'argent pour acheter des carburants. Nous vivons seulement cette chose-là. Parfois, tu puisses comme ça, là, ça devient rouge. On boit comme ça. Notre vie, c'est comme ça.
À quelques mètres d'elle, un groupe de jeunes dont l'âge varie entre 15 et 20 ans, assis sous un grand arbre à palabres, se plaint également de leurs conditions de vie.
Faut bloc 1, faut bloc 2, bloc 3, bloc 4.
Dans le bloc 1, 2 et 3, il n'y a que 4 robinets. Nous n'avons pas de douche. Nous sommes obligés d'attendre la nuit pour nous laver. On s'éloigne du camp dans la journée pour nous mettre à l'aise.
Bien que les autres se lamentent de leur situation de vie, le délégué de bloc 2 d'Amtchalabo, Gamar Mohamed, père de 13 enfants, souhaite y rester même si la paix revient en Centrafrique.
J'ai fait 25 ans à Bangui. Nous sommes retournés de la Centrafrique sans nos effets. Je remercie le président de la République pour nous avoir aidés à retourner au pays. Il nous manque des maisons et d'écoles. Nous avons faim et soif. Compte tenu de tout ce que nous avons subi comme atrocité, nous avons décidé que les hommes, les femmes et enfants ne repartent plus en Centrafrique.
À en croire les responsables humanitaires, le site d'Amtchalabo a été officiellement fermé par le gouvernement. Cependant, le même site vient d'enregistrer plus de 8000 nouveaux réfugiés, ce qui va aggraver encore les situations de cette population. André Koduma Dingar de retour de Sido pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Une nouvelle armée pour le Burkina Faso. Dépolitiser l'armée, voilà le nouveau chantier du président de la transition, Michel Kafando, avant de quitter le pouvoir. Il a mis en place une commission de réforme des armées dont l'objectif sera de proposer un plan de 2017 à 2021 visant à interdire toute implication militaire dans la politique. Mais la composition de la commission, qui ne comporte que des militaires, pose problème aux organisations de la société civile. Écoutons Hervé Kam, porte-parole du Ballet citoyen, au micro d'Arzuma Compaoré.
La question de l'armée est une question qui concerne l'ensemble du pays. Toutes les composantes ont leur mot à dire quand il s'agit de réfléchir sur la réforme de l'armée. Et nous pensons qu'avec une commission composée uniquement de militaires et d'officiers militaires, il y a vraiment de forts risques que le corporatisme l'emporte sur la réalité de la nécessité de la réforme. Il appartient au président Kafando de convoquer, s'il le veut, des états généraux. C'est plus large, c'est plus concret, c'est plus pratique que cette commission qui a été créée, dans la mesure où nous avons l'exemple de la commission qu'il avait mis en place pour réfléchir sur le régime de sécurité présidentielle, qui avait fait des propositions très corporatistes qui n'ont eu aucune suite. De ce point de vue-là, nous pensons qu'il y a plutôt lieu de convoquer des états généraux et nous espérons d'ailleurs que le président élu le fera.
Finalement, quel est le réel danger d'avoir des militaires qui sont impliqués dans la politique?
Vous savez que dans une république normale, l'armée est au service du pouvoir civil, est sous l'autorité du pouvoir civil. Et l'implication de l'armée dans la politique, pour nous, est la cause des nombreux coups d'État qu'on a vus au Burkina et dans d'autres pays. À partir de ce moment-là, nous pensons que le Burkina a beaucoup de problèmes sécuritaires à régler et qu'une armée professionnelle doit être loin de la politique et s'occuper des questions donc, de la protection du territoire.
Alors, après la dissolution du RSP, il y a le groupement de sécurité de la protection républicaine qui vient d'être créé. Qu'est-ce que vous en pensez?
On a toujours dit dans ce pays-là que la protection des institutions de la République revient à la gendarmerie et à la police qui sont chargées donc de la défense civile du territoire. Et nous ne voyons pas l'intérêt de la commission, de la création d'un tel groupement. Il est à craindre qu'on ne voit encore un RSP bis.
Nous écoutions Maître Hervé Kam, porte-parole du Ballet citoyen à Ouagadougou.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Cap sur le Bénin, à l'occasion de la journée de la lutte contre la corruption. Hier, une journée de réflexion est organisée pour harmoniser les stratégies adoptées en vue de combattre efficacement ce fléau. Et l'état des lieux de la corruption au Bénin, c'est le reportage de Ginette Fleur Adandé à Cotonou.
Malgré les campagnes de sensibilisation et la marche dite verte du chef de l'État, la corruption étend ses tentacules et s'est emparée de tous les secteurs au grand désarroi des acteurs de la société civile au Bénin.
Nous avons noté que la première tourne autour de la corruption au niveau de la santé. Si la césarienne est gratuite, elle est effectivement gratuite et l'État émet des ressources, mais c'est des agents dégénérés de la santé, particulièrement certains agents dits garçons de salle ou infirmiers qui en profitent pour faire des trafics de médicaments. La deuxième, ça concerne la petite corruption au niveau des policiers, au niveau des gendarmes, au niveau des douaniers. Là où nous avons reçu surtout des plaintes, ça concerne les cartes d'identité et les actes administratifs.
Mais là où c'était aussi dur, c'est qu'ils disent que c'est le gouvernement dans son ensemble, avec son chef, qui sont aussi responsables. Parce qu'ils ont dit que des dossiers ont été dénoncés, qu'on s'est rendu compte que jusque-là, le gouvernement n'a rien fait. Et ils nous disent... Tapez ceux qui ont détourné et vous allez donner l'exemple parce que nous, nous sommes des petits.
L'absence de répression est un signe éloquent de l'incapacité du pouvoir public à faire face à la propension du phénomène. Pour le citoyen lambda, la lutte contre la corruption est un rêve que tous les gouvernants au Bénin vont toujours caresser sans pouvoir le toucher.
La corruption a quintuplé au Bénin. Hein? Donc je ne sais pas si quelqu'un peut arriver d'un jour à l'autre pour supprimer. Mais pour le Bénin, là, c'est pire. On ne peut pas supprimer cette corruption-là.
Il faut libérer l'information au niveau des médias. Tant que les médias qui font des investigations n'auront pas un accès libre à l'information et qu'ils seront sous la poursuite de recettes de documents administratifs, la lutte contre la corruption ne peut pas marcher.
Pire encore, les membres de la société civile censés assurer la veille permanente sont tout le temps intimidés. C'est le cas de Martin Assogba, président de l'ONG Algrès, souvent menacé par les dossiers qu'il réussit à réunir et qui mettent en évidence la corruption entretenu par certaines personnalités influentes du pays.
Celui qui me menace est son problème. Moi, je m'en fous. Une fois que je sais que les dénonciations que je fais sont des dénonciations avérées et que j'ai des dossiers pour étayer mes dénonciations, les gens peuvent menacer, c'est leur problème. Moi, je m'en fous des menaces.
Le Bénin peut réussir le pari de la lutte contre la corruption. Il faudrait simplement un peu plus de volonté et beaucoup plus de rigueur dans l'application de la loi qui punit la corruption et autres infractions connexes. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ça, c'est bon musique Pays Lacaille, Morgane. De la bonne musique de chez nous. Courtoisie, Lionel Gaïma. D'ailleurs, c'est lui qui a dirigé la production ce soir. Merci Lionel. Il était assisté de notre ami Zinab Abdelrahman à la console. Présentation Morgane Guériac et chez Roubaix d'Orsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.